Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, notre période d'entretien est dédiée aux questions, remarques issues de notre présentation d'hier et somme toute aussi d'avant-hier. Je crois que nous avons un rapporteur en la personne d'Erwan, à qui je passe la parole.
Donc bonsoir. On vient de terminer de se réunir. Finalement, c'était un petit peu court, mais il y a pas mal d'interrogations qui ont émergé, en plus de celles des internautes. Je vais commencer par nos échanges de l'instant et je terminerai par les questions des internautes. Ça devrait être très largement remplir les 3 quarts d'heure. J'ai aussi proposé aux personnes qui étaient dans le groupe tout à l'heure de pouvoir intervenir sur les réponses que vous allez faire maintenant. Il y avait vraiment beaucoup de choses.
Et de relancer éventuellement, effectivement, les questions, s'il vous plaît, oui.
Donc, l'élément central, finalement, quand même, dans toutes nos discussions, était le lien entre universel et naturel, des termes que vous avez employés hier. Universel égale naturel, naturel égale universel. Il y a un besoin de revenir sur ces deux mots et les notions qu'elles recouvrent, si vous pouvez les préciser.
Non. Déjà, peut-être de faire remarquer qu'il y a là un très vieux débat entre nature et culture, d'une part, ou aussi d'ailleurs entre l'inné et l'acquis. Ce qui est inné, naturel, et ce qui est acquis culturellement. Donc, c'est un vieux débat qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, d'une façon simple, présentement, nous pourrions dire que nous avons une condition naturelle qui est à la fois sous-jacente et antérieure à notre condition culturelle. Dit autrement, nous sommes d'abord humains avant d'être français, européens, anglais ou chinois. Donc, nous avons une nature humaine, nous avons un corps humain qui, dans ses particularités générales, nous est commun. Nous avons tous une même constitution anatomique, physiologique, etc., donc d'humain. Et secondairement, sur la base de cette constitution humaine, nous sommes nous nous inscrivons dans différentes cultures. Et aujourd'hui, dans des cultures souvent mixtes, on peut être né à un endroit, avoir vécu à un autre. Personnellement, je suis né français, mais Et j'ai dit certaines fois que j'étais à moitié tibétain. Ça ne se voit pas comme ça. Mais j'ai vécu de nombreuses années dans la culture, dans la civilisation tibétaine, et il y a une imprégnation culturelle, une imprégnation mentale, une structure mentale qui vient de l'imprégnation culturelle. Donc, on pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça, mais il y a un fond naturel qui nous est commun, et là on peut reprendre l'exemple de l'humain, et nous faisons tous partie de la famille humaine. Et ceci, cette humanité nous est commune avant ce qui fait les différences qui nous constituent. Avant les différences culturelles, sociologiques, etc. Donc, nature et culture peuvent se comprendre ainsi. Et, puisque c'était la question, ce qui est naturel est universel. Ou notre nature humaine, ce qui constitue notre nature en tant qu'humain, ce qui constitue ce que nous sommes en tant qu'humain, est commun à tous les humains, et en ce sens universel, commun, général. En général, d'un point de vue général, nous sommes des humains, et secondairement, en particulier, nous sommes des humains français ou des humains de tel pays ou de telle culture, etc., etc. Mais ce qui est naturel et qui est donc commun à une portée générale et universelle. Est-ce que cela se comprend ? C'est très important. Alors, c'est très simple. C'est trivial. Mais c'est très important. Et si l'on est conscient de cette communauté humaine, de cette, alors on peut dire après, famille humaine à laquelle nous appartenons, dont nous sommes, en laquelle nous nous situons naturellement. C'est le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se reconnaissent comme égaux en droit. Et dans l'instant, j'ai oublié les termes précis, très intéressant de la relire, et son préambule. Mais fondé simplement sur la compréhension que nous sommes les mêmes humains. Et de ce point de vue, qu'il est licite de se comporter entre nous, entre égaux, avec le même respect, la même attitude de bienveillance, de non-violence, et la même règle d'or que nous discutions hier.
Ça me permet de rebondir. Très bien.
S'il vous plaît.
Il y avait une question sur la règle d'or, justement. La règle d'or est formulée dans une direction vers l'autre, ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais que l'on te fasse. Et on se posait la question justement du pourquoi la règle d'or est orientée vers l'autre avant d'être orientée vers soi, entendu que ce que l'on peut faire de mal à l'autre, c'est aussi du mal que l'on se fait à soi. Et donc, il y avait une question sur la formulation de cette règle d'or qui pouvait paraître imparfaite.
Alors, essayez de travailler sur des formulations plus sophistiquées ou plus parfaites. Je serais très content de les écouter. Et ce serait très intéressant. C'est un exercice que je vous propose. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des propositions. Mais s'il y en a, signalez-vous et nous les écouterons avec intérêt. Mais de comprendre que ne pas faire à d'autres la violence qu'on ne voudrait subir, c'est aussi ne pas se faire à soi-même la violence dont on ne voudrait être la victime. Et dans cette circonstance, on est d'une certaine façon un autre à soi-même. Et il est sûr qu'il est, adroit de ne pas s'infliger à soi-même la violence dont on voudrait être victime. Mais, madame, bonsoir. Non, ça marche. Il faut le mettre
bonsoir,
une petite barbichette,
barbichette
égyptienne.
Voilà. Donc, oui, vous disiez il serait adroit, mais dans la réalité, qui n'est pas la réalité forcément idéale, non dogmatique, non idéologique, quand on est en prise avec les limites humaines et ses dogmes et son ego tout puissant, on oublie cette règle fondamentale. Et je me disais hier, quand vous avez rappelé cette règle d'or, je me disais que cette violence qu'on peut infliger à l'autre, on se l'inflige à soi. Et je me disais aussi que c'était une formulation négative et tournée vers l'extérieur. Et comment on aurait pu reformuler une règle d'or positive ?
Une règle d'or positive
plutôt
vers soi.
Vers le point d'origine.
Il y a déjà « aime ton prochain comme toi-même ». C'est positif. Et c'est en s'aimant soi-même que l'on peut aimer les autres. C'est en sachant aimer et l'autre en soi que l'on est capable et que l'on peut aimer les autres dans l'altérité extérieure. Donc ça, c'est vrai. Et ça va à l'encontre de certaines tendances culturelles. Et c'est un entraînement. C'est une pratique de cette ce que nous avons maladroitement appelé spiritualité naturelle, que d'être en amitié avec soi-même et d'avoir self-esteem, ou de pouvoir s'apprécier, se respecter et avoir une attitude de non-violence, alors de non-violence ou d'amour. Amour est un mot, il faut faire très attention, hein, parce que le mot a beaucoup de connotations. Mais une attitude de non-violence est souvent très bien, même si c'est une formulation négative. La voix négative a beaucoup de qualités. Il faut souvent mieux dire ce que l'on évite que de proposer quelque chose en positif auquel on a facilement tendance à s'attacher, sur lequel on a facilement tendance à se fixer. Mais une attitude de non-violence, d'amitié, de douceur, de compassion, d'amour, de bonté, simplement. Et toujours dans un contexte ou dans une mentalité, une perspective de type médical, en faisant ce qui est bon aussi bien pour soi que pour les autres. Et ça n'est pas contradictoire. Ce qui est bon pour les autres est bon pour soi, et ce qui est bon pour soi est bon pour les autres. Ce qui est sain pour soi est sain pour les autres. Et lorsque nous disons sain, nous parlons de sain santé. Il ne faut pas confondre la santé et la sainteté. Hein? Saint santé, S-A-I-N. La santé est naturelle. La sainteté est souvent très culturelle.
Alors, peut-être sur votre dernière phrase, ça rejoint aussi la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur, et là on retombe peut-être sur l'aspect culturel, mais il y a des choses qui peuvent nous sembler être bonnes pour culturellement, on va dire, et que l'on va appliquer comme telles, et qui en réalité ne le sont pas du tout. Et finalement, faire la distinction entre les deux, comment on s'y prend ?
C'est effectivement peut-être difficile. C'est la référence et le principe fondamental est la règle d'or. Maintenant, la règle est simple, les applications peuvent être délicates. Mais j'ai participé il y a quelques années à une commission de bioéthique où on avait invité des représentants des différentes traditions, disons, représentées sur le territoire national pour discuter de questions de bioéthique, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, sédation et d'autres. Dans ces questions délicates, s'il en est, et où la frontière est souvent très ténue, le principe de non-violence est extrêmement pertinent. Dans une situation dans des situations limites comme celle dont il s'agit dans ces circonstances, il y a toujours une certaine violence. Mais recherche de la meilleure solution se trouve dans la recherche de la non-violence. Ce n'est pas évident du tout. Et d'autant qu'il y a dans ce genre de situation des parties multiples ou une recherche empathique, une recherche d'une solution empathique, compatissante et finalement aussi altruiste ou non égoïste est la meilleure solution de notre point de vue. Et de remarquer que une solution de non-violence, une solution empathique, une solution compatissante, une solution bienveillante, on pourrait dire une solution d'amour aussi, mais, ou une solution altruiste et non égoïste, on pourrait écrire tout, converge. Et toutes ces expressions sont des façons de dire un même état. On vous invite à considérer, on ne va pas le faire tout de suite, mais on pourrait les écrire toutes et voir comment toutes celles-ci convergent dans un état de présence ouverte, empathique, dans une participation compatissante, qui en même temps, dans cette rencontre, participation est bienveillante, eu égard à l'autre comme vis-à-vis de soi-même, et en ce sens altruiste, c'est-à-dire aussi non égoïste. Plus d'altruisme étant moins d'égoïsme. Et réciproquement. S'il vous plaît.
Merci. Suite à ma communication sur la version non idéologique du thème de ce week-end, une question d'Anne de Sanglier-Cat Bourg-en-Bresse, Anne Le Guel-Duquel, est de savoir est-ce que le dharma est une idéologie ?
Le dharma, qui est une voie du milieu, c'est comme cela que le Bouddha lui-même le définit, ce qui a beaucoup de sens. Mais la voie du milieu, la voie médiane, qui est aussi le Madhyamaka, est la révocation de toute idéologie. Ou la mise en évidence de l'absurdité de toute idéologie, quelle qu'elle soit. Ou, dit autrement, la mise en évidence d'une approche idéologique est bornée ou limitée et amène nécessairement à des contradictions internes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille aucun système de pensée, mais plus l'on est dans un système conceptuel idéologique, c'est-à-dire clos, auto-référent, où ça tourne en boucle. Et en général, l'autoréférence d'un système clos est fondée sur la croyance. Donnez-moi le truc. Merci. Voilà, la voie du milieu, le Madhyamaka, et le Dharma d'une façon générale, et la libération de toute idéologie, aussi bien des idéologies religieuses que des idéologies politiques, que des idéologies quelles qu'elles soient.
Merci. On a encore un peu de temps.
Il est 57.
C'est bon.
18 minutes, il nous reste.
On a une question assez particulière et complexe. Vous avez évoqué hier, a priori, la physique quantique. Et
tu as mentionné hier la physique quantique ?
Ah non, c'était pas... Science contemplative,
la science contemplative
versus science quantique, c'est ça ? Bon, en tout cas, on a une question, une bonne question. Au niveau quantique, justement, on l'observer, ce que l'on observe, est dit être changé par le phénomène même d'observation. C'est la thèse de la physique quantique. Et qu'en est-il dans la contemplation ?
Oui. En physique fondamentale, l'observation, la photographie et la graphie des photons, et des quantums d'énergie, photons, qui interagissent. Bon. Il y a finalement une incertitude qui est liée à cette constante. Bon. Qui est l'énergie impliquée, le minimum d'énergie impliquée dans une interaction, dans une relation. Je crois qu'il faut être très, très prudent avec la physique quantique. D'abord parce que la plupart des personnes qui en parlent en ont des idées souvent plus que sommaires et déformées. Et on nous sert... Hier, je n'ai pas parlé de physique quantique, c'est un sujet que j'évite. Maintenant, il y a de la médecine quantique. Quand on me parle de physique quantique, je dis « Ouh !» Ouh. Et... que ne raconte-t-on pas au nom de la physique quantique. Mais il y a des paradoxes, il y a des incertitudes, il y a des paradoxes qui sont insolubles dans des raisonnements conceptuels habituels. Les catégories a priori de notre entendement se trouvent prises dans des situations paradoxales qui n'ont pas de solution.
Ici, ça peut se réduire à la question, est-ce qu'en observant son esprit, on le change ?
Bien évidemment qu'en observant son esprit, on le change. Mais je dirais même plus. Il est complètement impossible d'observer son esprit. Alors, relativisons. Il est possible d'observer son esprit si tant est que l'on objective l'esprit, mais si l'esprit est l'observateur, il n'est pas plus possible d'observer l'observateur qu'il n'est possible à l'œil de se voir lui-même, ou au fil du rasoir de se couper lui-même, comme on dit aussi. Il y a une réflexivité qui fait que le sujet ne peut pas se prendre comme objet. Et si on le lit comme ça, bon, on peut en discuter, mais logiquement, c'est assez implacable. Mais dans l'expérience, c'est beaucoup plus délicat. Mais on peut déjà observer son mental. Et là, il y a beaucoup à apprendre de ses états mentaux, de ses pensées, de ses émotions. Observer ses pensées, observer ses émotions, observer ce que l'on conçoit, observer ses conceptions. Maintenant, observer le penseur, observer le concepteur, s'il vous plaît.
Bonsoir. Ces questions m'intéressent vraiment beaucoup, m'interpellent vraiment beaucoup. Si le sujet ne peut observer l'objet et réciproquement.
Le sujet peut observer l'objet, mais le sujet ne peut pas
donc,
s'observer
qui,
lui-même.
Quand nous observons le mental, qui observe le mental ?
Qui observe le mental ?
Oui, ça ne peut pas être le mental, puisqu'il est observé. Si je vous suis.
C'est une bonne question. Le mental. Il faut définir le mental. Le mental, dans la phénoménologie du Dharma ou dans la science cognitive du Dharma, le mental est un sens, ce qu'on appelle le sens interne. Hein, nous avons 5 sens externes et 1 sens interne. Et le mental est ce sens qui est doté d'une conscience. C'est-à-dire que dans le mental, il y a une conscience mentale dans laquelle il est un sujet conscient qui expérimente des objets mentaux que sont les pensées. Jusque-là, vous me suivez ?
Oui.
Et donc, le mental est un sens. Si on transposait avec la vision et qu'on prenait le sens de la vision, il est difficile de dire comment la vision se voit-elle. Ce qui serait pareil que dire ou que questionner comment le mental se voit-il. La vision voit, et dans la vision, il y a dans la conscience visuelle un sujet, le voyeur, si l'on peut dire, le sujet qui voit, et un vu, l'objet vu, ou dit autrement, un observateur et un observé. Et le paradoxe ici est que l'observateur ne peut jamais se prendre comme sujet, pardon, que l'observateur, oui, ne peut jamais se prendre comme objet. Car si l'observateur se prenait comme objet, ce serait quelque chose d'observé. Et ce ne serait plus l'observateur, puisque ce serait l'observé. Donc, on est là dans le paradoxe et les limites de la dualité. Et la pratique contemplative, dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est ce que l'on nomme la pratique de Vipassana, ou de la claire vision. Nous récitons le matin une stance, pour ceux qui sont à la méditation du matin, dans les souhaits du Mahamudra, qui dit « Observant encore et encore l'esprit inobservable, Vipassana voit le comment de son sens invisible. » Observant encore et encore l'esprit inobservable. L'esprit sujet n'est pas observable en tant qu'un objet. On est dans ce paradoxe. Mais en conduisant une forme d'observation qui va dans le sens de l'auto-observation, il y a la possibilité de dépasser ce mur duel, ou ce mur de la dualité, et de s'éveiller à une forme d'intelligence réflexive, c'est-à-dire qui se comprend en elle-même. Dit comme ça, c'est compliqué. C'est le cœur de la perspective philosophique des yogis, yogacara. Et cette intelligence réflexive voit en elle-même, sur un mode non-duel, le comment de ce sens invisible. Mais la solution, et c'est bien d'une solution dont il s'agit, n'est pas conceptuelle, elle est uniquement dans une expérience vécue. Merci. Erwan, vous avez le mot de la conclusion ou il y a...
Une question d'une internaute qui va un petit peu recroiser ce que vous venez de dire, mais je la pose telle quelle. Si la bouddhéité est universelle, la non-dualité peut-être pourrait-on dire, est-ce que son expérience nue est individuelle ?
C'est bien, mais ce sont des questions tout à fait fondamentales. Dire que la bouddhéité est universelle, oui, mais ça pose problème. La nature de Bouddha est universelle, oui. Mais si on qualifie cette nature universelle de Bouddha, on se situe dans un registre culturel. Bouddha n'était pas bouddhiste. Et la nature universelle, si l'on utilise simplement ce terme, peut être dite dans un système de référent nature de Bouddha ou nature éveillée. Ça fait sortir un petit peu de certains référents culturels, nature éveillée, nature fondamentale, fond du fond, fond du fond, le fond fondamental, fond essentiel, ce qui est avant la conception, ce qui est avant les conceptions, à la fois la conception et les conceptions. Ce fond naturel, universel, est absolu et omniprésent. Absolu et omniprésent sont, on peut dire, des synonymes. Maintenant, son expérience, l'expérience qu'un humain, qu'une personne humaine en fait, n'est pas individuelle, mais elle est personnelle, au sens où il y a une personne qui fait cette expérience. Mais cette personne n'est pas un individu. Je ne suis pas en train d'essayer de vous embrouiller, mais c'est... Il y a des embrouilles, et on nous a embrouillés pendant des siècles, les mêmes mots peuvent signifier des choses contradictoires chez des locuteurs différents. Alors, cette notion de personnel et de personne. Il y a toute une théologie, une métaphysique de la personne en Occident. Mais il y a dans l'expérience de cette nature universelle une expérience. Alors là, on va faire un petit peu de... Une petite histoire. Une expérience de personne à personne. Et c'est un terme personne à personne. Là, c'est très théiste. Une expérience de personne à personne. Mais il y a une clé qui nous vient de... Ce sont des amis soufis qui me l'ont appris. C'est l'expérience d'une histoire de Nasruddin. Alors je la raconte souvent, excusez-moi si vous l'avez déjà entendu, mais Nasruddin, c'est un fou divin, un fou mystique, mais toujours plein de sagesse dans sa folie. Et Nasruddin était parti pratiquer la contemplation au désert pendant 30 jours. Et après 30 jours de contemplation et de jeûne dans le désert, Nasruddin revient extasié. Disant, le désert, c'est merveilleux, le désert, c'est merveilleux. Alors les gens lui disent, Nasruddin, allez, on redescend, calme-toi. Il continue, le désert, c'est merveilleux. À propos, nous sommes dans un désert de Chartreuse. Et l'idée, et le désert, bon. Qu'est-ce qu'il y a de ces merveilles ? Le désert, on y rencontre Dieu. Le désert, on y rencontre Dieu. Le désert, on y rencontre Dieu. Oui, oui, c'est sûr, il n'y a personne. Voilà. Ça résume la métaphysique de la personne. et d'une relation de personne à personne, où il n'y a pas quelqu'un ni d'un côté ni de l'autre. Là-dessus, je vous propose un petit moment de petite pause.